En vérité, on a déjà terminé tout ce qui est de Hametz Matzah. Après, c'est le Korban Pesach. Alors, on va faire des sugyot. On va faire de la Gemara dans ces cas-là. Vous avez une Gemara Pesachim? Alors, on va faire quelques sugyot. On va faire le deuxième Perek. On va commencer le deuxième Perek. Vous avez tous une Gemara? Psachim, deuxième Perek. Alors, dans la Gemara, c'est Daf Kaf Aleph. Daf Kaf Aleph, donc on recommence la Mishnah, bien qu'on l'a déjà fait. Mais pour attaquer la Gemara, on va faire d'abord la Mishnah. D'accord. D'accord. Alors, je commence. Kaf Aleph Amoud Aleph. Kol Sha'a Shemutar Lechol. Tout le temps, toute heure qu'il peut manger, Machil la Behima. Il peut aussi donner à manger à son animal. Adam ou Behima, Toshi Hashem. L'homme, c'est comme l'animal. C'est bien, c'est beau ça. Tant que l'homme peut manger, la bête peut manger. La Chaya, il peut donner à manger aux bêtes sauvages. Mais la Ofot et aux oiseaux. Ou mon frère le Nochri peut aussi vendre au goy, c'est-à-dire il peut profiter. Les issours de profiter, il n'est pas tellement grave comme les issours de manger Hametz. Manger Hametz, c'est Hayav Karet. Profiter, ce n'est pas Hayav Karet. C'est maximum Hayav Malkout. Mais c'est Assur Mina Torah. Profiter, c'est Assur Mina Torah. Maintenant, quand Chachamim, ils ont fait des Chumrot, d'interdire des heures que la Torah a permis, ça veut dire comme ça. Selon la Torah, le chayav karet, c'est quand on mange pendant les 7 jours. Shibat yamim, sor lo yimotze bochem, ki bochot, ki ochel machmetzet, biyom arishon yom shvi le chayav karet. Mais erev Pesach après-midi, si on mange, on n'est pas chayav karet, mais c'est assur. C'est assur, nous, la halakha, on pense, comme le Tanakh dit, c'est assur mina Torah de manger erev Pesach après-midi. Donc, à partir de midi, commence un issur mina Torah. Mais le matin, c'est moutard. Mais Chachamim, ils ont interdit. Ou une heure, ou 2 heures avant midi, on a interdit de manger. Maintenant, est-ce qu'on a interdit de profiter ou on n'a pas interdit de profiter? Et voilà, c'est ça que nous allons maintenant analyser dans cette Mishnah et après dans la Braïta. Kol sha'a shemutar l'échol. Tout le temps qu'il est permis pour le juif de manger, machil le behima, il peut donner à manger aux animaux. Moucher le nochri, il peut aussi vendre au goy. Moutar banato, il peut profiter. Ça veut dire quoi ça, il peut profiter? Quel est le chidouche? Il vient de le dire. Il peut donner aux animaux. Il peut donner, vendre au goy, il gagne d'argent. Alors c'est quoi moutar banato? C'est la même chose. Il vient de le dire. Pourquoi c'est répété? On va voir dans la Gemara. Peut-être c'est-à-dire tu peux directement profiter. Peut-être vendre au goy, on profite que de l'argent, c'est peut-être un peu indirect, mais peut-être directement profiter, c'est assur, comme j'en ai quand même directement, on peut profiter. Avar Zmano, si le Zman il est passé, le Zman que Chacha ils ont interdit de manger, assur banato, et bien Chacha ils ont aussi interdit de banaa. On parle toujours le matin, parce que l'après-midi, c'est la Torah qui est interdite. On n'a même pas le droit de chauffer tanour, le four, vekeraïm, et une cuisinière. On n'a pas le droit de chauffer un four, une cuisinière, avec du hametz. Pourquoi il n'a pas le droit? Parce que ça va le profiter, malgré qu'au moment où il profite, il détruit. Donc peut-être il fait une mitzvah d'asséminatoire de détruire la chametz. Quand un homme y trouve du chametz pendant Pessah, eh bien qu'il la brûle, c'est très bon. Alors j'aurais pu croire que du moment que je suis mekayem la mitzvah de brûler, eh bien je peux chauffer mon plat dessus, pourquoi pas? Non, on te dit tu n'as pas le droit, parce que la maaseh tu profites du chametz. On profite du chametz, mais est-ce qu'on profite vraiment du chametz ou on profite de la chaleur? On profite de la chaleur. Mais d'où vient la chaleur? Du pain qui brûle. Oui, mais le pain, il est brûlé après il y a de la chaleur. Alors, ça s'appelle je profite du chametz, où d'abord j'ai détruit la Hametz. La Hametz fabrique de la chaleur. Et moi, je vais aller profiter de la chaleur. Alors, ça, on verra dans la Gemara. Il y a Shvach Eitzim Bepat ou un Shvach Eitzim Bepat. Ça, c'est un pile-poule dans la Gemara. Comment il faut regarder, comme direct ou comme indirect? Si le profit de la chaleur, parce que moi, je profite de la chaleur, et la chaleur vient à quel moment? Au moment que la Hametz existe, ça s'appelle du profit du Hametz. Ou après que le Hametz n'existe plus. Seulement le Hametz, il a provoqué quelque chose qui fait. Ça, c'est indirect. Indirect, la Torah n'a pas interdit. On n'a pas interdit d'indirect. Imaginons-nous qu'un homme, il aura de la matzah dans une armoire. Mais il ne trouve pas la clé. Alors, quelqu'un il va venir avec une clé qui est fabriquée de Kile HaKerem et il va ouvrir l'armoire. Quelque chose qui est Asurbana. Il va prendre un objet qui est Asurbana, une clé d'Avodah Zarah. Il va ouvrir l'armoire. Et après, moi, j'ai accès en nourriture. Est-ce que ça s'appelle que j'ai profité d'Avodah Zarah si l'autre il a déjà fait? C'est permis. Si je vends au Goy et le Goy me paye, étant donné que la hitraïvout de payer, c'est au moment que je lui ai vendu, on appelle ça direct. Parce que je suis makné au Goy, Mohamed, le Goy est mitraïev de me payer. Et quand il paye son chiouf, mais mail, ça s'appelle « Je suis devenu riche ». Mais par exemple, quand on dit dans Shulchan Aruch, un homme, il va louer un four à un goy. Et le goy va cuire du chametz. Et il me paye un salaire. Le goy dit « Vous avez un four, monsieur juif. Est-ce que vous faites Pessah ?»« Pessah, je ne l'utilise pas. Je vous paye 50 euros, je vous loue l'autre four. » Vous voulez faire quoi dans le four? Je voudrais boire et je voudrais cuire du pain. Alors, Minatora Vadaï, c'est permis. Parce que je ne profite pas du Hametz, je profite du four. J'ai un four et je loue le four. C'est vrai que si le Goy n'aurait pas eu de... Si le Goy n'avait pas eu de pain à cuire, il n'aurait pas loué. Oui, ça c'est juste. Donc, indirectement, je suis content. Alors ça, ça s'appelle... C'est indirect. On verra dans la Gemara après. Ça, c'est le cinquième père, c'est Khatabot de Zara. Il y a un cas de Rotsi Bikiyumo. Il y a un cas de... Indirectement, il est content de profiter. Mais ça, c'est Vadaïmi, la Torah. La Torah n'a pas interdit une chose comme ça. Elle a interdit que de profiter correct. Alors, ici, le chidouche de la Mishnah. Ça veut dire que si tu brûle le chametz et ça dégage une chaleur et cette chaleur va cuisiner ton plat, ça s'appelle tu directement, tu profites du chametz. Rabbi Yehuda il a dit, en biro chametz et la sreifa, comment le mekem le mitzvah de biro chametz, il n'y a qu'un moyen, ce sreifa de brûler. S'il n'a pas brûlé, s'il a jeté, il n'a pas fait la mitzvah, le firam qui s'est débarrassé, il a pris la chametz, il l'a jeté dans la mer, il ne transgresse plus Baal Yirae. C'est bon, c'est un bon juif. Mais on aurait pu être meilleur. Parce que la Torah a demandé de le débarrasser de la façon de le brûler. Et pourquoi la Torah veut d'afke brûler? C'est quoi la logique de Rabbi Yehuda? La Torah veut d'afke brûler la chametz. Il est méchant ce chametz, il faut le brûler. Il y a que les juifs ne possèdent pas les chorams. Il peut me farer, il peut l'émietter, il le jette, le roi dans le vent. Le vent, il est éparpillé sur les quatre continents. Je rappelle que j'ai détruit le Hametz au Matéléam, ou je jette à la mer. C'est logique, le roi, ce que Chacham raconte, car ce que le bon Dieu veut que les Juifs ne transgressent pas, alors ça y est, je ne transgresse pas. Et Rabbi Yehuda dit non, il y a une certaine façon comment tu dois débarrasser. Mais attends, bon Dieu, si je n'aurais pas eu de Hametz, est-ce que j'ai un chiouf d'acheter de Hametz pour le débarrasser? Non. Ce qui n'a pas de Hametz, il n'a pas de Hametz. La Torah ne l'oblige pas. Ah, il y a mitzvah de brûler le Hametz. Non, mais la mitzvah de brûler le Hametz. La mitzvah de brûler le Hametz. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il raconte ici? Si je n'ai pas de Hametz, je ne suis pas obligé d'acheter. Ce n'est pas comme de la matzah, qu'un homme qui n'a pas de matzah, il n'est pas obligé d'acheter de la matzah. Il y a une mitzvah de manger la matzah. Et si je n'ai pas de matzah, eh bien, tu vas acheter. Maintenant, il y a une mitzvah de débarrasser la hametz. Mais si je n'ai pas de hametz, je ne suis pas obligé d'acheter de la hametz pour le brûler. La mitzvah de manger la matzah et la mitzvah de détruire la hametz, ce n'est pas le même sens. Matzah, la Torah veut qu'il rentre de la matzah dans le ventre. Donc, il faut que je me débrouille. Donc, il faut que j'achète de la matzah. Mais la Torah ne veut pas à tout prix qu'un homme brûle du chametz. Si un homme n'a pas de chametz, tout va bien. Mais si tu as du chametz, tu as une mitzvah de le brûler. Alors, c'est quoi comme logique? C'est quoi comme logique? Tu as du chametz, tu dois débarrasser pour que je ne transgresse pas. Quand le bon Dieu veut que brûler, que le bon Dieu veut brûler tout le chametz du monde, mais non. Le goyim, il y a beaucoup de hametz, ça ne les dérange pas, le goyim. Voilà, les goyim, ils ont des milliers et millions de tonnes, ça ne les dérange pas. Ça ne dérange pas, le bon Dieu, il n'y a rien de mal. Il ne faut pas que les juifs aient là du hametz, ça va? Il ne faut pas que les juifs aient là. Ah, pourquoi il faut qu'ils le brûlent? Bon, Rabbi Yehuda, il fait de ça. Il fait un gzera shava avec une otar, un homme qui a de la viande qui est restée. Après la laps du temps de pouvoir manger, ça devient notar. Il y a un mitzvah, bah, esh tisaref, pour le brûler. Et là-bas, il y a une mitzvah de brûler d'Afka, et pas autrement, pas débarrasser d'une autre manière, d'Afka brûler. On va dans les korbanot, le chélef, il faut brûler. Mais là-bas, c'est un peu comme manger la matzah, parce qu'elle a bon, brûler sur le misbeer, c'est le ikar mitzvah, ça c'est comme manger de la matzah, la Torah veut que ça brûle la graisse sur le misbeer. Mais des korbanot que soulim, il faut dire. Si le korban n'est pas soul, un korban qui est devenu tamé, des korbanot qui sont devenus tamé comme un notar. Notar, il y a mitzvah de brûler, et pas seulement débarrasser du monde. Et Rabbi Yehuda, il apprend de notar, oui, c'est juste. C'est un chidouche, c'est même un chidouche, la Torah de Rabbi Yehuda. D'accord, on va continuer la Gemara. Kol sha'a she'mutar le'chol ma'achil. Ça, c'est la Mishnah. Donc, ha kol sha'a she'einu mutar le'chol, einu ma'achil. Donc, au moment où on ne peut pas manger, on ne peut plus donner à manger. Donc, ça veut dire, dès qu'il y a un issur achila, automatiquement, il y a un issur hana'a. Midrabanan. Leime, est-ce que nous allons dire maintenant, t'es l'autre que Rabbi Yehuda? La Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. Dis Rabbi Yehuda, parce qu'il est comme Rabbi Yehuda, et que Hamesh, il y a bien la cinquième heure du matin, où on ne peut plus manger, mais on peut quand même donner à manger. Maintenant, on a vu dans la Mishnah, c'est la Mishnah plus tôt, Rabbi Meir Omer, Ochlin kol chamesh. On peut manger les premières cinq heures du matin, c'est-à-dire depuis le matin jusqu'à la terminaison de cinq heures, premières cinq heures de la matinée des Erev Pesach, on peut manger. Ochlin kol chamesh. On doit brûler au début de la sixième heure. Et quand on dit qu'il faut brûler, donc je ne peux plus manger et je ne peux plus donner à mes animaux. C'est-à-dire tout de suite, ça devient un sourbe achila et un sourbe ana'a. Rabbi Yehuda Omer, ochlin kol arba. L'interdiction de manger, c'est les premières quatre heures. Vetolin kol chamesh. Et c'est en balotage la cinquième heure. Ça veut dire quoi? Tu n'as plus le droit de manger, mais tu n'es pas obligé de brûler parce que tu peux le vendre au goy, tu peux le donner à ton animal. C'est intermédiaire, ton ligne intermédiaire. Et sauf fin, mettre la tchèche. Et brûler, il faut qu'au début du sixième heure. Donc, je vois que les fils étaient de Rabbi Yehuda. Il y a une différence entre Issoach et Issoana, et notre Mishnah ne fait pas cette différence. Donc, notre Mishnah n'est pas Rabbi Yehuda. Alors, on dit, mais elle est Rabbi Meir. Alors, donc, notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Aïe, kol sha'a, she mutar le'echol ma'achil, kol sha'a, she ochel ma'achil mi'ba'elei. Qu'est-ce que dire? Tout le temps qu'il est permis de manger. Il faut dire un langage mieux. Tant qu'il mange, il peut donner à manger. Tant qu'il mange, c'est-à-dire, bien sûr, tant qu'il peut. Donc, il est permis. Tant que l'homme mange, l'animal mange. Amara baba ule, maintenant, il y a Rabbi Gamliel. La Mishnah, c'est une troisième chita. Chita de Rabbi Gamliel. Maintenant, Rabbi Gamliel l'emmerde. Chuli nechalin kol arba. Chuli, on peut manger les 4 heures. Teruma kol chamesh. La truma des Kohanim, on peut manger même la cinquième heure. Ça veut dire quoi? Teruma, c'est dommage de brûler teruma. Parce que c'est kadosh. Ça fait mal au cœur de brûler la teruma. Mais si tu ne le débarrasses pas, tu es obligé de le brûler. Si tu as laissé la teruma, c'est-à-dire tu as un pain de teruma, tu es Kohen, tu as un pain de teruma, en Israël, tu as un pain de teruma. Alors, si c'est l'après-midi, tu es obligé de le brûler minatora. Si c'est la sixième heure, tu es aussi obligé de le brûler parce qu'ils ont interdit de profiter. Donc, tu dois le brûler. Mais il dit que quoi? C'est dommage de brûler la trouma. Mieux vaut y trouver une solution. Donc, Nechalin kol arba. On peut manger 4 heures. Tout de suite après, tu ne manges plus. Si tu as de la trouma, on te permet kol chamesh. Tu peux manger même la cinquième heure. Au début des 6e heure, il faut brûler. Maintenant, le sens de la Mishnah. Les kol sha'a, shemutar le chol kohen betruma. Israël ma'achil chuni la behima l'achelofot. Kol sha'a shemutar le chol. S'il y a une chose qui est permis de manger, même pour Israël, c'est assur de manger, chulin. Mais pour le kohen, il est permis de manger le truma. Il y a encore un cas où un juif peut manger. Alors, ma'achil, tous les juifs peuvent être ma'achil, c'est-à-dire dans la fameuse cinquième heure, tous les juifs ma'achil choulin le behima la chalofot. Ma'achil choulin. Mettons là, comment on dit le behima la chalofot la mali. Pourquoi il y a là trois exemples dans le Mishnah? Behima va chayevaofot. Tu as besoin de trois. Tu dis behima, je comprends, chayevaofot, c'est la même chose. Pourquoi tu me dis trois exemples? Alors, la Gemara nous dit l'amali limite, ne? L'amali limite behima, l'amali limite la chaya. Tricha, j'ai besoin des deux, Behima et Chaya. Ditana Behima, si on aurait dit Behima, dime Chayre, Chazila. Si elle ne mange pas, le patron il va voir, il va débarrasser. Ça veut dire quoi? J'ai des vaches, j'ai des chevaux, je donne des behemotes domestiques. Ils mangent dans mon étable. Alors je peux donner la cinquième heure. Et à la fin de la cinquième heure, qu'est-ce que je fais? Je vérifie si le cheval il a tout mangé ou pas. S'il a tout mangé, tant mieux. S'il n'a pas tout mangé, je le détruis. Aval chaya. Mais si j'ai des chats, un chat, c'est un chaya. Alors, dit ime chayre. Si elle ne mange pas tout, kamatsnela, elle cache. Si je donne à mon chat à manger du pain, je ne sais pas si elle mange, mais bon. Alors, je lui donne à manger du pain. Si elle ne va pas tout manger, elle a la coutume de le cacher. Et donc, comme elle cache, peut-être je ne peux pas trouver et je ne pourrais pas débarrasser. Donc, j'aurais pu croire qu'au chayot, je n'ai pas le droit de donner cinquième heure. Et même là, j'aurais pu croire qu'il ne faut pas leur donner. Alors, le Mishnah m'a dit, même la chaya. Oui, t'as chaya. Si, m'avait dit chaya, mishum di mishay remi omatsne. Parce que si elle ne mange pas, au moins elle est matsne, au moins elle cache. Donc, les Juifs ne vont pas arriver à manger. Il ne voit pas où c'est. Donc, au moins, c'est sûr qu'il ne va pas manger pendant Pessah. Et pour ne pas transgresser pas l'Yara, il peut faire Bitoul. Mais la Behima, parfois, elle ne mange pas tout. Et les Juifs, ils l'oublient après de chercher dans les tables pour vérifier. Et il ne va pas débarrasser. Il va transgresser Balire ou Balire Matsé. La Gemara fait, elle a l'air de dire que si elle ne cache pas, Les Juifs ils transgressent Baliamatsé. Et la Chaya qui cache, les Juifs ne transgressent pas Baliamatsé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on transgresse Baliamatsé parce que le chat il a caché? Ça veut dire quoi, il a caché? Donc je ne vois pas. Et si on ne voit pas, on ne transgresse pas. Alors je n'ai qu'à prendre la Hametz, mettre dans mon armoire et fermer. Ah, Baliamatsé. Et non, Baliamatsé, c'est dire il ne faut pas voir. Et Baliamatsé, il ne faut pas que ça se trouve. Alors si ça se trouve, c'est la même chose si on voit ou pas. Il y a un din de Bal Yatmin. Dans le premier père, qu'on parle de Bal Yatmin, on n'a pas le droit de cacher la Hametz. Les Juifs, ils font un poula pour cacher la Hametz, ça va d'ailleurs, ça reste assur min haTorah. Mais si ce n'est pas les Juifs qui a caché, c'est l'animal qui a caché. Et je ne sais même pas où, je ne suis même pas sûr. Ah, ça, c'est différent. Vous avez le petit Tosfot là, le troisième Tosfot. Viesh min el chaya, s'il m'avait dit chaya, chum de matzne là parce qu'elle cache. Ve'ein over mishum bal yatmin. Ici, il ne transgresse pas les sourds de bal yatmin, il ne faut pas cacher. De bal yatmin afkelan milo yimatse. D'où je sais que je n'ai pas le droit de cacher. Parce que c'est marqué lo yimatse, il ne faut pas que ça se trouve chez toi. Mais ve'ein ze matsui, kiven she'en yodea heichan hu. Mais si mon chat, il m'a caché et je ne sais pas où ça se trouve. Ça ne s'appelle pas que moi j'ai caché parce que ce n'est pas matsui biatra. Ce n'est pas présent à l'utilisation. Ce n'est pas présent. Je ne sais pas où chercher. Dans ce cas-là, les Juifs ne transgressent pas. Donc, Abba Beheima, si elle ne cache pas, elle laisse dans les tables. Donc, les Juifs vont transgresser Balere Bali Matse. Et donc, j'aurais pu croire, l'eau, je n'ai pas le droit de donner à l'animal. Maintenant, au fot l'omali. Pourquoi on parle des oiseaux? Behema Vachaya, je comprends. Et l'oiseau, il est comparable à un Behema qui ne cache pas ou il est comparable à un Chaya qui cache, lui? Et si il est comparable à un Behema qui ne cache pas, on a déjà dit que le Behema c'est permis. Si l'oiseau, il est comparable au chat qui cache, on a déjà dit que le Chaya c'est permis. Donc une fois que tu me dis Behema c'est permis, et une fois que tu as dit Chaya c'est permis, je déduis que la Ofot aussi c'est permis. Donc, le mot ofot, il est en trop. Alors, pourquoi tu dis le mot ofot? Ça, c'est un proverbe. Dans tous les chats, ça marche ensemble. C'est plus entendu que Kabod. Le oiseau aussi, c'est déjà important. Pourquoi le ofot, tu ne veux pas m'appeler? Allons dire Behima Vachaya ofot. Maintenant, quelqu'un qui a demandé pour un poisson. Pourquoi ce n'est pas marqué dans la Mishnah poisson? Behima Vachaya ofot, le poisson. Ça ne se trouve pas dans le chasse. Il y a dans le mot Behema, il y a 100 fois dans le Mishnayot. Mais on ne dit jamais poisson. Pas seulement parce que c'est Pessah. Dans le reste aussi, on ne dit pas poisson. Mais c'est... Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que ce juif propose? Peut-on dire que le poisson n'a pas été écrit car il n'a pas accès au Hametz? Qui se trouve dans l'eau, qui n'a pas accès, le juif n'a pas accès, trouve dans l'eau et ils ne l'auront pas Hefker, et ils ne l'auront pas Hefker car il a vu que son poisson le mange. Non, mais ça c'est la chaya aussi. Il veut que le chat mange. Non, c'est le poisson, c'est ou comme Ema ou comme la Chaya. Alors, on va continuer. Ou mochol anochi, on peut vendre au goy. Pita, c'est pas chouette qu'on peut vendre au goy. Si c'est moutabana, on peut vendre au goy. La pouke ma haïtana. Notre tane veut exclure ce fameux tane, c'est-à-dire Betchamay. De tane, on a vu Betchamay omrim. Loïmko, Adam chemtsol anochi, un homme n'a pas le droit de vendre chametz au goy. Et l'inken yodé aboshich le kodim pesach. Seulement si les juifs y savent. Que le goy va le manger, va se débarrasser avant qu'il arrive Pessah. Ou bête il est l'omrim, kol shah shemoutan l'ichol moutar l'imkor. Tant que tu peux manger, tu peux vendre. Quelle est la logique de Beth Shammai? Le roi s'est impelé. Je vends du au goy. Beth Shammai dit il faut que le goy débarrasse le Hametz avant Pessah. Pourquoi? Le goy n'a pas d'issour de posséder le Hametz. Le goy est soumis sur la Torah. Donc, que le goy achète au magasin du Hametz ou que moi je lui vends du Hametz, qu'est-ce que ça change? Je vends du Hametz, je vends au goy. Maintenant, le goy, il est propriétaire. Maintenant, le goy, il le garde pour Hametz. Quel est le problème? Pourquoi Beit Shammai dit, c'est quoi cette Khumra? C'est la Khumra de Rabbanan. Oui, mais sur quoi il est basé cette Khumra? Lo yimkor adam chemtso le nochri, un homme ne doit pas vendre son Hametz au goy, elen ken yodea bo. Sauf si les Juifs disaient chez Yichle Kodem Pesach, que ça va terminer avant Pesach. Il y a deux chidushim ici. D'abord, il faut que le Hametz soit terminé avant Pesach, et en plus, il faut que les Juifs il est sûr. Et si c'est un safek, si je ne sais pas si les goy termine, eh bien, je n'ai pas le droit. Il y a un double chumra dans Beit Shammai. Après Beit Hillel, même si je suis sûr et certain, le goy ne va pas le débarrasser, je lui vends une demi-heure avant Pessah, et je sais que le goy va le garder aussi, c'est moutard. Et madame, il a tout rassé comme Beit Hillel. Alors, Beit Shammai me font deux chumras. D'abord, si le goy garde, tu n'as pas le droit de lui vendre. Hein? Et si c'est un safek, que le goy garde, tu dois être en mahmir. Le chumra, étant donné que ce que je ne peux pas vendre si le goy garde, c'est que de Rabbanan. Donc, si c'est un safek, si le goy garde, ça fait que de Rabbanan le coula. De toute façon, ça aurait dû être permis. Et Beit Shammai, il a fait une double chumra. C'est quoi la logique? Je ne sais pas quelle est la logique de Beit Shammai. Est-ce que c'est Nir'e, que Ilou, c'est le Hametz du Juif? Les Chachamim, ils ont dit, les gens de la rue disent, ah, ça c'est les biscuits du Juif. Ah oui, oui, je vois un consommateur qui dit, Hersher, tel et tel. Ah oui, c'est les biscuits du Juif. Non, non, ils n'ont qu'à dire, c'est les biscuits du Juif. C'est quoi ces biscuits du Juif? Mais je l'ai vendu au Goy. Oui, non, mais peut-être ce n'est pas vendu, peut-être le Juif, il a déposé chez le Goy. Parce qu'un juif qui prend du Hametz, il dépose chez le goy, il ne transgresse pas l'Iraël. Sauf un chita de gonim que non, mais là, la halakha n'est pas comme ça. Un juif qui dépose son Hametz chez un goy, les juifs qui transgressent, bah, l'Iraël. Donc peut-être, Beit Shammai, ils ont peur que si je vends au goy, peut-être les goy, ils vont dire, non, les juifs, ils vont dire, les juifs, il a déposé chez le goy. En vérité, il n'a pas vendu. Pas tout le monde sait qu'il a vendu. Et si le goy va au magasin, il a un magasin, ils vont le Hametz pendant Pessah. Peut-être les gens ils vont dire que les Juifs, il a mis cette viande, ce morceau de pain à dépôt de vendre. Des fois, un homme, il dit, voilà, je vous donne une tonne, vous le vendez, vous me payez à fur et à mesure, et c'est moi qui vends. Des fois, ça existe. Donc, peut-être que ça, il pense qu'il y a mal à Tarine, on va penser que le Juif, il dépose et demande à Goy de vendre pour lui. D'accord. Rabbi Yudé. Alors donc, notre Mishnah ne pense pas comme Beit Shammai. Notre Mishnah nous dit, que tant qu'il est permis pour les Juifs de manger, il a le droit de vendre au goy. Rabbi Yehuda ben Peter Omer, Kutach vechol minei. Kutach asur limkor 30 yom kodem la Pesach. Kutach, est-ce que c'est déjà Kutach? Ça, c'est Kutach. Est-ce qu'on n'a pas fait une fois Kutach à Bavli? On a fait ça quand on a fait Kutach Bavli, le Kutach babylonien avec l'alcool de Med et le vinaigre de Edom. On a fait ça dans la première Mishnah du troisième Perek. Alors Kutach, c'est ce fameux condiment qu'on y a du lait caillé, avec un peu de bricole de pain, avec du sel, rachidi. Kutach notem bo pirur elechem va asur mishum hametz. Alors, Kutach vechol mine kutach, toutes sortes de kutach, asur limkor 30 yom kodem le Pesach. On n'a pas le droit de vendre les 30 jours avant Pesach, parce que ça se mange peu à peu. Si je lui donne un pain, je peux lui donner deux jours avant, parce qu'il va le manger, mistama. Si je lui donne un immense pain qu'il faut 7 jours pour manger, je peux lui vendre 8 jours avant Pessah. Mais le Kutach, comme c'est comme un truc de moutarde, un bocal de moutarde, ça se mange pendant 30 jours. Et donc, il faut s'abstenir de le vendre au goy pendant 30 jours. D'accord. Moutarde bahana'a. Ou moutar bahana'a, c'est permis de profiter. Pshita. Je dis que c'est permis de profiter, étant donné que quoi, tu dis qu'on peut vendre au goy. Je peux vendre un animal, donc je profite. Donc si tu laisses 5e heure, tu me permets de vendre au goy. Donc c'est permis de profiter que la chidouche.
Ah,
L'autre.
d'autres questions.
Oui, j'entends que quoi?
Tu veux demander pas quelque chose avec
Ils entendent.
Oui?
Ariel,
Oui?
il Shamaï, c'est Olamaba, c'est
Non,
le.
non, 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 c'est... Non,
Et.
non, 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 c'est pas ce genre de question. Non, la question d'être sur le chat. Excusez, excusez-moi, le chat est sur le chat. Alors, on va continuer. Umutarbana pshita, c'est plutôt que c'est permis de profiter. Lotzricha shechalcho kodem zmano. Il a grillé avant le zman. Mais que machmalan que de rava, Rava, il a dit, charcho kodem zmano, mutarbana afilul achar zmano. Alors, il y a une halakha comme ça. Quand un homme il a du chametz, il faut le brûler pendant Pessah. Qu'est-ce qu'on appelle brûler? Est-ce que brûler, c'est juste qu'on le rend une braise ou juste que ça devient de la cendre? Qu'est-ce qu'on appelle brûler? Alors, si on le brûle pour devenir de la braise, est-ce qu'on peut profiter de la braise? Un homme, il a du chametz pendant Pessah, c'est Assur Banaa. Je ne peux pas profiter du chametz. Je fais quoi? Je le mets dans le four. Après 5 minutes, c'est devenu noir. On ne peut plus le manger. Ce n'est plus un aliment. Ceux qui le mangent, ils ne transgressent pas de manger du chametz. Ce n'est plus du chametz. Alors, est-ce qu'il aura le droit de profiter de cette braise, l'utiliser comme combustible? Il n'a pas le droit. Parce que c'est Assur Banaa. Dès que le Pessah il est rentré, il a une interdiction à Assur Bahana'a. Comme c'est à Assur Bahana'a, tu ne peux pas profiter. Pas seulement tu ne peux pas manger, tu ne peux pas profiter. Donc il y a Assur Achila, Assur Hana'a, si maintenant tu brûles, ça devient braise. Tu ne peux pas profiter de cette braise. Si tu utilises après la braise pour cuire ton pain, pour cuire ton pomme de terre, alors non, tu profites d'un Assur Hana'a. Donc, il faut le brûler jusqu'à ce que ça devienne de la cendre. Une fois que ça devient de la cendre, le fichier de Rabbi Houda peut utiliser la cendre. La cendre, c'est déjà Majouacher. Naasit mitzvato, terminé ta mitzvah, là, on peut profiter. Puis Rabbi Houda. Mais ça, c'est quand j'ai brûlé pendant Pessah. Mais qu'est-ce qui se passe si. Je le mets dans le four avant Pessah et je le rends braise avant Pessah. Je prends avant Pessah le matin, je prends du chametz, je mets dans le four et ça devient braise. Maintenant, il arrive Pessah. Est-ce que les issours de Pessah, il est khal sur lui? Non, c'est plus un état d'aliment. Comme c'est plus un état d'aliment, les issours de chametz ne tombent pas dessus. Donc, il reste moutar banaa. Donc, si cette braise-là, je veux utiliser pendant Pessah, j'aurai le droit d'utiliser pendant Pessah. Et ça, c'est le chidouche Moutarbana'a. Moutarbana'a, c'est. La Mishnah nous dit la 5e heure, c'est Moutarbana'a. La Gemara dit Pshita. Non, il veut te dire que si la 5e heure, tu as brûlé le Chametz pour le rendre Gechalim, tu peux profiter de cette Gechalim même après la 5e heure, même l'après-midi, même pendant Pessah, tu peux profiter. Ça, c'est le chidouche. Qu'il a brûlé, grillé, il a grillé, il a rendu au noir avant le Zman Issour. Et que maintenant, le chidouche de la Mishnah est de Rava, comme Rava. Amar Rava, il a dit, si tu l'as rendu noir avant le Zman Issour, Moutar Bahana'a, Afilula, tu peux profiter même après le Zman. Et ça, c'est un yesod qui n'est pas seulement vis-à-vis de Charcho de le rendre braise. Tu peux le faire aussi avec de l'eau de Javel. Imaginons-nous un homme, il a du Chametz. Et il sait pas comment débarrasser. Il sait pas comment débarrasser. Il n'a pas de feu. Et il ne sait pas me faire résoudre le rouach, il ne sait pas comment le faire. Alors, il faut le dénaturer. Tu prends l'eau de Javel. Et tu verses dessus.
Ah, il faut bien il faut bien expliquer ça parce que ça risque de nous arriver pour cette année.
Qu'est-ce qu'il arrive, de risque d'arriver cette année?
Qu'on ne puisse pas brûler ou qu'on ne puisse pas aller à l'eau lac ou autre. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là?
D'accord. Alors, dans ce cas-là, on peut prendre l'eau de Javel ou de l'essence. Tu as un décilitre d'essence dans ta voiture. Tu verses sur le pain. C'est immangeable, c'est inconsommable. Comme c'est inconsommable, ce n'est plus un aliment. Et donc, il n'y a plus d'issour dessus. En théorie, cette remette, pendant Pessah, maintenant, tu veux l'utiliser comme combustible, tu auras le droit. Tu pourras l'utiliser comme combustible. Parce que si avant Pessah, tu l'as rendu inconsommable, il n'y a plus d'issour chametz dessus. Et tu peux le profiter de lui pendant Pessah. Mais si tu as attendu jusqu'à la sixième heure, jusqu'à la septième heure, et c'est du chametz. Donc, l'issour achila, il s'en a tombé dessus. Et maintenant, tu verses de l'eau de Javel. Maintenant, tu verses de l'essence. Là, tu ne peux pas profiter. Parce que l'objet est devenu un sourbana. Donc, cet objet, on ne peut plus profiter. Il faut le rendre inconsommable avant les issour. C'est pour ça, dans le Shulchan Aruch, il est marqué que les médicaments qui ne sont pas mangeables, s'ils sont devenus pas mangeables avant Pessah, il n'y a aucun problème. Tu peux les garder chez toi. Tu peux les garder chez toi du moment qu'ils sont devenus inconsommables avant Pessah. Maintenant, il y a un cas que même pendant Pessah, tu le rends inconsommable et quand même tu peux les garder. Même si c'est pendant Pessah, c'est quand tu le rends inconsommable quand l'objet est en train de fermenter. Un homme, il va pendant Pessah, il va prendre de la farine et de l'eau, il va pétrir. Bon, c'est-à-dire, il est en train de fabriquer des matzot. Et après, il a laissé 5 minutes, 10 minutes. Il dit, aïe, je ne sais pas, est-ce que ça a commencé déjà le chimoutz ou pas? Peut-être que ça a déjà commencé le chimoutz, je ne veux pas le manger. Bon, je le laisse, je ne le mange pas. Mais tu me chougas, si tu vas laisser ces vadaïs devenir chametz, il faut le détruire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'eau de Javel, il verse dessus. Ah, bouf. Ah, essayez, je verse de l'eau de Javel. Eau de Javel, ça y est, on ne peut pas consommer. Maintenant, est-ce que je peux prendre cette pâte et je peux l'utiliser comme combustible? Alors, s'il serait déjà devenu chametz et maintenant je verse l'eau de Javel, c'est trop tard, tu ne peux pas consommer. Tu ne peux pas les profiter, c'est Asurbana. Mais si tu as versé l'eau de Javel avant que c'est venu Chametz, donc il n'y avait pas encore des issours sur lui. Comme il n'y avait pas des issours sur lui, donc tu as le droit de mettre l'eau de Javel. Quand j'étais jeune, j'étais à étudier chez à Kol Torah. Alors, j'étais au shiur d'un grand Talmid Chacham, Admir Vesrim Shana, Omer Langer, mais je demandais à aller monter un shiur. Le shiur en haut était Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Alors, je demande à Rabbi Shlomo Zalman Auerbach s'il me permet de rentrer dans son shiur. Alors, il n'a pas tellement voulu. Après, j'ai demandé à une autre fois. Alors, il a dit, il a vu que j'insiste, il a dit, bon, d'accord, viens chez moi à la maison et je vais t'interroger. Alors, est-ce qu'il ne me connaissait pas? C'était la première année que j'étais là-bas. Alors, je suis venu, parti chez lui à la maison. Alors, il me dit, qu'est-ce que j'ai étudié les derniers semaines quand j'étais à Lucerne? Et j'ai dit, je dis Psachim. Et d'accord, je vais te poser une question sur Psachim. Il m'a demandé d'interroger sur cette Gemara. Quand j'ai commencé cette Gemara avec vous, je ne sais pas, bon, c'est maintenant, je me rappelle. Il a parlé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec du Chametz? On n'arrive pas à se débarrasser. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a parlé de différentes choses. Elle me dit, imagine notre solution, on n'a qu'à verser de l'eau de Javel dessus. Hein? Alors, on a parlé, sorti ce truc, Bon, après, il a dit, tu peux monter dans mon chiot, d'accord. Après, je suis monté dans son chiot et je n'ai pas compris son chiot. Rien compris. Ça marche autrement, c'était... Après 2 semaines, je suis parti chez lui, j'ai dit, je peux vous demander quelque chose? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai le droit de sortir de votre chiot pour descendre les chiots en bas? Il dit pourquoi? Je pense que j'excuse, mais je le comprends mieux. Il dit, ah, tu ne comprends pas, monsieur. J'ai dit, je ne sais pas, je ne suis pas habitué de la façon comment ça. C'est une autre façon comment. Je ne suis pas habitué. Je suis habitué comme l'autre magnitude. Je ne suis pas habitué. Je ne suis pas. Alors il me dit, ah, Brand, tu sais, ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir. C'est bien ça, hein. Quand la première fois tu es venu me demander, tu veux monter, je ne savais pas si c'est le même chemin parce que tu veux mieux étudier ou parce que tu veux être dans la parole, d'être dans la chiot, de l'assassinat. Maintenant, je vois que tu veux descendre. Ça veut dire que vraiment, tu veux comprendre. C'est bon, là, ça lui a fait plaisir. Là, je suis descendu, j'ai compris le chiot en bas mort. Alors, en tout cas, ça m'est resté dans la tête, en tout cas, cette histoire d'Ojavel. Alors, on en somme.
Grave, il y a une question.
Ouais.
Elle est écrite, est-ce qu'on peut le jeter par la fenêtre, le Hametz?
Est-ce qu'on peut le jeter par la fenêtre et en dessous, il y a qui? Un gilet. Est-ce qui est en dessous? Ça veut dire quoi si on peut le jeter? C'est de quoi si on peut le jeter? Si la fenêtre est fermée ou ouverte? C'est quoi la question? Explique-toi la question, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce qu'il demande?
Je pense pour se débarrasser, quoi. Je suppose. Hein.
Erev Pessah ou pendant Pessah?
Erev Pessah.
Erev Pessah, tu veux débarrasser la Hametz. Alors la Mishnah nous a dit, « Mefarer, vous aurez le ruach au matelia, mefarer, on émiette, vous aurez le ruach, on le jette au vent. Tu es mefarer, tu es éparpillé et tu jettes dans le vent. » Et qu'est-ce que lui fait? Il émiette ou il n'émiette pas? Je suis avec quelqu'un en face ou pas? Allô, il y a quelqu'un en face de moi ou pas?
Sûrement, il doit être là.
Alors, qui, donc, ouvre-lui le parleur. Allô, il n'y a personne en face. Oui, alors, quelle est votre question? Après éparpillement, après éparpillé ou avant avant émettier ou après émettier?
Avant émettier.
Avant émettier, il veut jeter, mais la Mishnah nous dit il faut me farer. Me farer, vous aurez le rouach. Il faut l'émietter et après jeter dans le vent. S'il n'émiette pas, entièrement il jette comme ça de le vent, c'est à source, ça ne s'appelle pas débarrasser.
Ok.
Quoi?
Ok.
On n'est pas mekayem comme ça la mitzvah. Ah. Maintenant, les chora, tu peux poser un kushia. Même s'il n'est pas mekayem la mitzvah. Mais au moins, c'est plus à lui. S'il rend hefker, c'est plus à lui. Donc, il transgresse rien. Alors, pourquoi il est obligé d'émietter? Alors, c'est vrai que minatora, s'il jette et il rend hefker, minatora vadaï. Il est yotze, il n'est pas, transgresse pas. Mais il n'est pas mekayem la mitzvah de débarrasser la chose. Il n'a pas de débarrasser la chose. Comme on verra, la mitzvah de débarrasser, est-ce que les Erev Pessah ou les Erev Pessah le matin ou l'après-midi? Bon, ça c'est encore un autre inyan. Mais quel est le din, par exemple, un homme, il va rendre Hefker Erev Pessah son Hametz. Un homme, il a un ton de Hametz. Bah, disons pas un ton, il en a 3 bouteilles de vodka. Il ne veut pas transgresser. Il prend les 3 bouteilles de vodka et les met dans la rue. Et je dis, je rends Hefker. Est-ce que ça, c'est bon ou est-ce que ça, c'est pas bon? Alors, ça, c'est Machloket Rabbi Yochanan, reste la quiche dans l'Yerushalmi. Lui dit, je rends Hefker, il pose dans la rue. Si jamais, si personne le prend, après, Pessah, il peut le récupérer. Alors, ça, c'est Machloket Rabbi Yochanan, reste la quiche. Rabbi Yalacha, il apporte sa barichot, ou l'achronim, il part de Seignan. Est-ce que poser dans la rue le Hametz, est-ce que ça c'est yotze ou pas? Et en tout cas, là, la tous, on n'a pas le droit de faire ça. Si on a fait, c'est autre chose, mais on n'a pas le droit de faire comme ça. La Mishnah nous dit, mais farer, il faut éparpiller, vous aurez le roi. Au matiliam, il faut le jeter dans la mer. Jeter par la fenêtre. Si la mer est devant lui. Mais si la mer n'est pas devant lui, la rue, non, le roi, ça ne marche pas. Alors, on va continuer. un produit inconsommable pendant Pessah et qui peut le devenir un mois après, on se débarrasse. Je n'ai pas compris. Quel est ton cas? Rabbi Alouche, ouvre. Moshe, ouvre pour Rabbi Alouche son truc. C'est quoi un consommable pendant Pessah et peut devenir dans un mois après? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a comme produit magique là? Où il est Alouche?
Voilà, il est là.
Bonjour, Philippe Alouche.
Oui, alors quel est ton produit?
C'est en théorie, par exemple, quelqu'un qui fabrique un alcool très très puissant qui ne peut pas être consommable et qui l'a pendant Pessah, mais on sait qu'en s'affinant, par exemple, ou en devenant plusieurs mois plus tard, il devient consommable pendant Pessah. Mais c'est Hametz, c'est-à-dire c'est à base de blé, mais c'est immangeable, imbuvable. C'est une théorie en vrai, c'est en théorie.
Alors c'est possible que si la raison pourquoi il est Hametz, c'est parce que c'est trop fort à cause de la concentration, ça on n'appelle pas inconsommable. Ça on n'appelle pas ça, c'est comme pilpel. Si quelqu'un a du poivre de Orla, c'est assourd. Mais on ne peut pas manger des poivres de Orla. On faut le moudre et le mettre dans la soupe. Parce que la concentration seule, elle n'est pas mangeable. Mais c'est mangeable quand je le dilue. Alors, il y a une sorte qui s'appelle diluation. Quelque chose qui n'est pas mangeable parce que c'est trop concentré, il n'est mangeable que si on le dilue, ça s'appelle consommable. Ça, c'est la Shela. Bon, la Shela de Rabbi Moïse, toujours sur ce or, sur le levain qui n'est pas mangeable. Mais Raoui, le Chameya, Bakama, Isot, mais il est Aschametz parce qu'on peut faire monter d'autres pâtes. La couche de Rabbi Moïse, pourquoi l'Eran, il dit que la Torah, elle a interdit ce or malgré que ce n'est pas mangeable? Parce que où il a chaméa bo isot achirot, c'est le Gemara elle dit, parce qu'on peut faire monter d'autres pâtes, même si ce n'est pas parce qu'on peut faire monter d'autres pâtes, mais on peut le manger lui, en le mélangeant avec une pâte, pas parce qu'il fait monter d'autres. On l'écrase, le levain, et on le met dans le pain, et quand c'est dans le pain, on peut lui le manger. De la même façon que toujours les condiments, les pilpels de Orla, ne sont pas mangeables tels quels. Quand même la Torah, elle a donné un dîme de Orla, parce qu'ils sont mangeables par dilution. Donc, de toute façon, on aurait dû dire ça pour ce or aussi. Ça, c'est la couche. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il répond après moi sur cette question, une vieille question. En tout cas, pour revenir, votre exemple que vous avez donné, quelque chose qui est trop concentré, ça, c'est possible que quoi? Et ça, c'est déjà Hametz. Mais votre question peut être dans un autre cas, où la raison pourquoi ce n'est pas consommable, pas parce que c'est trop concentré. Pour une autre raison. Il y a une autre raison pourquoi c'est inconsommable. Mais ça va devenir après consommable. Est-ce que ça s'appelle consommable? Alors, ça, c'est la grande question. Il faut voir ce qu'il a demandé. Bon, c'est la couchée aussi de Chavodat. Chaque fois quand on cuit du chametz dans le four ou dans une soupe, c'est pas consommable parce que c'est trop chaud. Alors c'est pas oil achila. Alors c'est pas du chametz. Et la viande qui est salée avant que j'enlève le sel, il est pas consommable. Alors la viande, elle est pas interdite de manger. Mais on va bientôt enlever le sel. Quelque chose que temporairement n'est pas mangeable parce que c'est un passage pour amener après à la mangeabilité. Ça ne s'appelle pas que c'est une rouille achila. Parce qu'il y a qui douche de chavodat, chavodat de l'intisibes. Le chavodat, il pose une bonne kushia. Il pose une kushia bombatomique. Alors, voilà, ça touche un peu la sugia qui va venir après. Un kushia de base sur le dinim des isur achila. Un kushia de Yesod. Il y a une halakha que la Torah n'interdit pas de manger un aliment interdit si tu manges shelo kederech achila. si on mange d'une façon anormale de manger, la Torah n'a pas interdit. C'est-à-dire quoi? Le Rambam dit, quelqu'un va prendre de la graisse interdite, il va la brûler son degré, il va la avaler comme ça quand il brûle et ça lui fait mal à la gorge. Il n'aura pas fait Issur Min HaTorah. C'est chelou que d'être la Meshuga, on ne mange pas comme ça. Ou il a mélangé davar mar. Il a pris du chlore de magnésium, un petit poudre que tu achètes au magasin pour 1 €, et tu verses sur de la viande de chazir, un peu. C'est infect, c'est immangeable, c'est ah, ça fait bon bien. Alors, ceux qui mangent maintenant la viande de pas cachère avec un davar mar qui rend immangeable, s'appelle achila shelo kederech. Donc, la Torah n'a pas interdit. Ça, c'est une halakha. Maintenant, il y a une deuxième halakha. Il y a une halakha qui dit que si on a de la viande pas cachère qui pourrit, jusqu'à ce que c'est plus mangeable, la Torah n'interdit plus de le manger. Quelqu'un a de la viande, il va laisser au soleil, et après il arrive 3 semaines après les vacances, il a oublié de le frigider, je ne sais pas, et bien s'il mange, il ne transgresse pas. Les issour de Hamet, les issour de Chazir, il est parti. Pourquoi les issour, il est parti? C'est Nevela, She'en Arouya, les guerres, et Nekerouya, Nevela. Nevela, Arouya, les guerres, Kouya, Nevela, Nevela, She'en Arouya, les guerres, et Nekerouya, Nevela. Ça veut dire quoi? Que du moment, il y en a un ici, il faut enlever là, le Moshe. Là, le Moshe, on va éteindre un peu le. Tu vois ici? Il va peut-être mieux éteindre le. Voilà. Alors, le village, et une rouille, les guerres, du moment que ça pourrit, il n'y a plus d'issour. Maintenant, il y a un afkamina, il y a une différence entre les deux halachot. Ça ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose. Quand c'est pourri, c'est parce que c'est pourri, la Torah, elle a enlevé les issour. La viande qu'on a mélangée avec quelque chose de amer, la viande n'est pas pourrie. Si je vais enlever l'amertume, et si je vais mettre du sucre qui va neutraliser l'amertume, la viande est très bonne. Donc, si quelqu'un va ajouter du sucre, il a rendu amère la viande, il va ajouter du sucre et maintenant c'est mangeable, et la viande elle est en bon état, eh bien, il transgressera. Maintenant, on va prendre un cas, Bassar Bachalaf. Je ne suis pas encore arrivé à la kusha de Chavodat. Elle viendra plus tard, la kusha. Si quelqu'un, il a du bassar b'chalav, il a cuit de la viande avec du lait. Très bien. Et maintenant, après qu'il a cuit la viande avec du lait, c'est assur de manger. Et maintenant, il va ajouter quelque chose d'amer dessus. Et il mange. Est-ce que c'est assur ou c'est moutard? C'est assur. Parce que dans bassar b'chalav, on est chayav même shelo kederech achila. Bassar bechalav, on est chayav même shelo kederech achila. Ainsi, kile hakerem. Le kilaïm, on a fait pousser du blé dans une vigne. Ce blé, même si on mange le blé amer, il sera assur. Bassar bechalav, be kile hakerem, c'est assur même shelo kederech achila. Très bien. Quel est maintenant quelqu'un qui a du bassar, qui a du bassar bachalav, mais la viande a pourri. Il a pourri et il le mange. Est-ce qu'il transgresse? Alors il dit le chavodat, il ne transgresse pas parce que ça c'est une autre halakha. Le din de derech achila et shelo ke derech achila, la Torah le donne quand il est marqué dans la Torah l'otochal. L'otochal chazir. Kol chazir l'otochelu. Kol nevela l'otochelu. Et dans ce cas-là, si c'est amer, ce n'est pas la coutume de manger. Donc la Torah permet de manger si c'est très amer. Mais basar bachalaf, ce n'est pas marqué l'otochelu. La Torah lui dit l'otevashel gedi bachalavimo. Elle dit 3 fois l'otevashel gedi bachalavimo. Une fois pour l'interdiction de cuire, une fois pour l'interdiction de manger. Une fois pour l'interdiction de profiter. mais c'est jamais écrit le langage ne mange pas basar bachalav. Donc l'interdiction de manger basar bachalav, il ne change pas si c'est amer ou pas amer. Mais même si c'est amer, on transgresse. Très bien. Mais si le basar bachalav a pourri, ça sent mauvais parce que les molécules se sont transformées. Là, même basar bachalav, c'est permis. Parce que ça, c'est un autre limoud. La pourriture est permise pas parce que ça ne s'appelle pas une achila. C'est parce que ça ne s'appelle plus un ochel. C'est plus un aliment. Si la viande est devenue amère, j'ajoute un truc amer ou chaude, je prends la graisse qui est chaude, la graisse est toujours interdite. Mais maintenant, elle est chaude. Donc, quand tu manges, tu ne fais pas de ma'asé, achila. Tu ne fais pas d'action d'achila. C'est pour ça que c'est permis. Mais si c'est basar bachalav brûlante, c'est un sourd. Parce que la Torah n'a pas interdit d'afke ma'asé achila kederech achila. Tu manges l'eau kederech achila, aussi tu es chayav. Donc manger basar bachalav brûlante, c'est chayav. Mais si le basar bachalav, il a pourri, c'est un autre din. C'est un din de neveila chez Nerouille à la guerre. Et neveila chez Nerouille à la guerre, alors c'est moutard. Après la chavodat, il fait un chidouche. Que si quelque chose, il était pourri, donc le issur, il est parti, quel sera le din si je le remets dans son ancien état qu'il est de nouveau mangeable? Quel sera le din? Alors il dit, ça reste permis. Ça, c'est le chidouche de Nessives, le chavodat, ça reste permis. Si c'est chelo que derrière achila, mais j'ai changé. Et je mis du sucre sur ça, bon, c'était amer. Et maintenant, je mis du sucre et c'est des rachila. Bon, ce sera assourd. Parce que des rachila, ça dépend au moment de l'achila. Donc, si au moment de l'achila, c'est agréable, c'est assourd. Mais quelque chose qui est pourri, il est assourd, il est parti. Même si après, je le remets, il devient mangeable, il est assourd, il est parti, il ne se réveille pas. Très bien. Et maintenant, commence la kushia. Maintenant, commence la kushia. Chaque fois qu'on te nomme, il va mettre du sel sur de la viande. Il va prendre de la viande de chazir. C'est assourd de manger. Il va mettre beaucoup de sel que c'est immangeable. Alors, c'est immangeable. S'il va manger maintenant, il ne transgresse pas, il sourd. Après, il a lavé le sel. Et maintenant, de nouveau, c'est mangeable. Est-ce que l'issour, il est parti ou il n'est pas parti? Est-ce que c'est maintenant, c'est permis ou c'est interdit? Vous entendez la question? Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un, il a de la viande, il a mis beaucoup de sel, c'est immangeable. Après, il a enlevé le sel. Je parle de viande, la là. Il a enlevé le sel. Est-ce que maintenant la viande est permise ou pas? Parce qu'à un moment, elle était permise. Donc, elle ne peut plus redevenir assourd. Qu'est-ce que vous dites? Il faut leur enlever la sourdine, là. Tu es là, Moshe?
Oui, voilà, les gens écrivent.
Ah, les gens, ils écrivent. Je vois rien, moi. Pourquoi je vois rien? Toutes les viandes sont salées. Elles sont pourtant autorisées à manger. Qu'est-ce qu'il veut dire? La viande cachère est permise de manger. On parle de l'invela. Qu'est-ce qu'il me parle? La viande cachère est permise de manger. Mazal tov, oui, on parle de la nevela que j'ai salée. Et après, j'enlève le sel. On peut tout... où il est parti, le gars? Chaim Klessi dit assour, Herbelim dit moutar, sur autre genre, basar bachalaf, même sans consommation, cela est interdit. Oui, non, je ne parle pas de basar bachalaf, je parle de la viande de nevela. Je parle de viande de nevela. La viande de nevela, il a salé fort. tellement qu'on ne peut plus manger. Et après, il a enlevé le sel. Maintenant, c'est mangeable. Est-ce que, je dis, les Issour, il est parti, il ne peut plus redevenir? Ou est-ce que je dis, les Issour, il revient? Alors, je vais expliquer. Je voudrais ouvrir le micro. Famille Goulet veut ouvrir le micro. Je vais lui ouvrir le micro. Hervé Alimi veut ouvrir le micro. Famille Goulet, oui, qu'est-ce qu'elle dit, la famille Goulet?
Alors, c'est comme ça qu'on fait certains jambons. On les sale. Les Goulets me font certains jambons. Ils les salent à outrance. Pour les faire une cuisson, ils les rincent et puis après ils les font striger.
D'accord. Alors maintenant, le maréba réponse. Est-ce que c'est maintenant, une fois que c'était immangeable, si on a mis du sel que c'était immangeable, et après on a enlevé le sel, c'est immangeable. Est-ce que c'est moutard ou assour? Hervé, qu'est-ce que tu dis? Hervé? J'entends un. Famille Goulet, qu'est-ce que vous dites? C'est fermé le micro. Moshe, tu es là?
Ah, c'est bon, j'ai le micro.
Ouvert, cher Hervé.
J'ai le micro. À partir du moment où on a rendu la viande, la nevela, moutarde de manger, puisqu'on a mis un sel, plein de sel et que c'était immangeable, elle garde ce statut. C'est un statut qu'elle a.
D'accord, j'ai entendu. Famille Goulet, vous avez fait. Ouvre Famille Goulet encore une fois.
Je dis que c'est assourd, parce que c'est une exception, parce qu'il y a une technique d'égoïne de préparer le radir qui consiste à le saler.
D'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Alors, je vais dire quelle est la réponse. La halakha, il est comme Dr Goulet, que c'est assourd. Mais pas à cause de la raison, parce que c'est un technique chez les goyim. Parce que la viande n'était jamais dénaturée. Il y a deux halachot. Il y a une halacha shelo kederech achila. Il y a une halacha que la viande n'est plus considérée comme un aliment. J'ai dit que si je prends de la viande et je chauffe à 100 degrés et on mange, eh bien, on ne transgresse pas. Ce n'est pas le derech achila. Et si ça refroidit, la viande qui refroidit après, la graisse qui est refroidie, on mange froid, on transgresse. Je ne dis pas quand donc il est chaude, la viande n'est plus considérée comme de la viande. La bonne des viandes, c'est de la bonne viande. C'est la chaleur fait que je ne peux pas manger. Donc, du moment que ça refroidit, ça reste à sourd. De la même façon, je mélange quelque chose d'amer dans la nevela. On ne peut pas le manger si tu manges du pâteau. Mais si maintenant tu mets du sucre, c'est assourd, parce que la viande n'est pas dénaturée. C'est quand la viande est pourrie, que les molécules ont changé et que c'est pourri, là, les Issour, il est parti. Et les Issour ne peuvent plus redevenir, il ne peut plus renaître après. Donc, dans le sel, quelqu'un a de la viande, Nebela, ils mettent beaucoup du sel, il ne peut pas manger, mais la viande n'est pas pourrie à cause du sel. La viande, c'est la bonne viande. Mais je ne peux pas le manger parce qu'il y a trop de sel dans ma bouche. Donc, du moment que j'enlève le sel, cette nevela reste assourd. Maintenant, ça, c'est le yeso. Maintenant, la question, elle est sur beaucoup des produits qui sont transformés chimiquement. Et ils étaient mangeables au début, et après, on les a transformés chimiquement pas mangeables, et après, ils redeviennent mangeables. Il y en a comme ça un tas de choses. Je vais prendre une première chose. On va prendre, si on prend de la gélatine. De la gélatine de nevela. Quelqu'un va prendre, bon, la gélatine, on peut faire soit de la peau de la bête, soit des os, soit de la graisse, soit du moelle, soit des cornes, soit des sabots. Le sabot, c'est bien pour faire de la gélatine. Alors, si on prend des os et des cornes et des sabots, est-ce que c'est assourd ou est-ce que c'est moutard de manger des sabots d'une vache? On va laisser cette question à côté. Ça, on ne va pas discuter cette question-là. Étant donné que quoi? Étant donné que c'est un soubia à part. Mais on va prendre, on va fabriquer par la graisse d'une vache. Le véla. La graisse, la Torah, elle a interdit manger la graisse et chayav karet. Une vache, manger la graisse et chayav karet. Et bien que c'est une graisse de vache chayav karet ou c'est la graisse de chazir qu'on est chayav malkout, c'est assaut. Maintenant, on va faire de la gélatine. Au début, la graisse est mangeable. Pendant le processus de faire gélatine, on le rend immangeable. Comment le rendre immangeable? On met des produits dedans. Il y a toutes sortes de produits, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bon, je vais lisser sur un truc, j'ai oublié comment ça s'appelle ces produits. Alors, ce n'est pas mangeable. Et après, on enlève ces produits. Et après, à la fin, c'est de nouveau mangeable. De la glace aux gentilles. Glace aux gentilles, ça monte comme ça, gentilly. C'est très gentil comment ça monte, la glace. Et on mange. C'est mangeable. Mais à un certain moment, c'était dégoûtant. Alors, qu'est-ce que je dis? On a pris de la graisse d'animal. C'est assaut. On l'a dénaturé. Et après, on renature. Est-ce que je dis? C'est comme de la viande pourrie. Donc, les souris, les parties. Donc, après, il redevient mangeable. L'interdiction est partie et ça reste moutarde. Ou est-ce que je dis non? C'est quand on a mis un produit ammoniaque ou je ne sais pas quoi, on a mis le produit dedans. Ça, c'est comme je mets quelque chose de amer. La Rambam dit, si je mets de amer dans la viande, c'est chez l'Okeder Rachina. Mais si après, tu enlèves l'amertume ou tu ajoutes du sucre, c'est assaut. Donc, est-ce que je dis l'ammoniaque a dénaturé la graisse? C'est plus la graisse, c'est autre chose. On me met les restes moutards à la fin. Ou est-ce que je dis non? C'est comme ça, traverser un processus de j'ai mis quelque chose d'amer ou quelque chose de sel ou quelque chose de chaud. Temporairement, on ne peut pas manger. Et quand j'enlève ça, et j'avais la cabane de l'enlever pour remettre en état de mangeabilité. Est-ce que maintenant c'est assourd ou est-ce que c'est moutard? Ça, c'est une des chélotes que les rabbinim se posent la question sur la gélatine et sur beaucoup d'autres produits chimiquement transformés, mangeables au début, à un moment pas mangeables, à la fin, oui, mangeables. Comment il faut juger la chose? Alors, autrefois, il y avait aussi, par exemple, sur acide citrique. Après, moi, ils parlent aussi de ça. Acide citrique, c'est fait. Des fois, on peut faire de façon chimique et on peut le faire aussi du blé. On fait du blé. On prend du blé, du chametz, et on fait acide citrique. Comment on le fait? Je ne sais pas. Acide citrique, c'est un des produits qui est le plus consommé dans les aliments modernes. Tous ces aliments modernes qui sont faits pour l'usine et on veut qu'il reste toujours la même mixture, le même goût, le même truc partout. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Alors, les acides citriques, c'était chametz et après, c'est plus mangeable et après, c'est de nouveau mangeable. Ça, c'est aussi la même chakira. La peau du poisson. Oui, on fait des fois la peau du poisson acide sulfurique. Mais elle est utilisée uniquement comme une texturant, non comme un aliment. Non. Alors, un texturant, non comme un aliment. Et comment ce monsieur définit c'est quoi une texturant et c'est quoi un aliment? Comment on traduit texturant au aliment?
Micro ouvert pour monsieur.
Oui, monsieur Sourodjan, oui.
Oui, bonjour Rav. Par rapport à la gélatine de porc, je voulais juste apporter une petite parenthèse. Je voulais savoir, par rapport à ce produit-là, il l'utilise uniquement en tant que texturant et non pas comme un aliment. Alors, est-ce que cela aurait été possible à la consommation?
Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu appelles texturant et qu'est-ce que tu appelles aliment?
Alors, un aliment, c'est un produit qui est fait pour s'alimenter, pour se nourrir. Donc, on le mange donc clairement pour se nourrir. Un texturant, c'est un produit qui est apporté en plus dans de la glace, dans des gâteaux, dans des yaourts pour apporter une texture. En fait, c'est le yaourt qui va nourrir et la gélatine va être là uniquement pour stabiliser le produit.
Je vois, je parle ici avec un homme, un diététicien qui veut chercher la santé des gens. Mais dans la Torah, quand on parle des aliments, on parle même des bonbons, hein, qui ne sont pas bien pour la santé, pour l'alimentation. Ça s'appelle quand même quelqu'un, il avait un bonbon de Hazir. Mais ici, c'est très mauvais pour l'alimentation. Il y a des choses qui sont très mauvaises pour l'alimentation, mais ça fait un kiff. C'est dans le kiff dans la bouche. Et la Torah aussi, elle a interdit. La notion texture, aliment, c'est pas pour nourrir, pas nourrir. Et il y a des aliments qui nourrissent pas et c'est quand même un aliment. Si quelqu'un y mange, qu'est-ce que tu appelles nourrir? C'est des calories, ça rassasie. Qu'est-ce qu'on appelle nourrir pour toi? Hey, Sourodjan, pourquoi on te piquait le truc?
C'est bon. Toi,
oui. Qu'est-ce que tu appelles nourrir? Si ça remplit le ventre sans aucun aliment, est-ce que ça s'appelle une nourriture?
On pourrait appeler ça une nourriture, mais là, il est pas fait, on va dire, il n'a pas été fabriqué pour cela. C'est quelque chose qui ne nourrit pas et ça n'a pas de goût, c'est uniquement
c'est
la technique.
Ça nourrit pas. C'est quoi ça ne nourrit pas?
Ça remplit c'est pas fait le ventre. C'est un matériel, c'est devenu en fait un produit chimique.
Oui, mais chimique.
Ils ont fait d'un aliment.
Le fait que c'est chimique. Ça, c'est toi qui dis chimie. Là, on a utilisé la chimie pour transformer la graisse de porc. Alors, en tout cas, on va revenir sur nous. C'est possible, c'est bien un aliment. Mais pas tout, c'est bien un aliment. Seulement, à un moment, ce n'était pas mangeable. Ça, c'est un hakira. Ça, c'est une des questions comment il s'appelait l'aliment? Pour la gélatine. Qu'est-ce qu'il y a ici? Massar, Bachalav, à 100 degrés, vous avez dit que l'issour reste pour quelqu'un qui l'avale et c'est à cause de l'issour. Non! À cause de l'issour Achila! C'est à cause de l'issour Achila! Parce qu'il mange, celui mange l'okederech. Mais dans Bassar, Bachalav, la Torah, elle a interdit. Manger chez l'okederech. Alors, le gaz pour les boissons est issu de chametz, assour ou moutard. Davar hamamit. Qu'est-ce qu'il dit? Le gaz pour les boissons. Les gaz pour les. Oui, les.
Ah, gaz
pour les boissons. Quoi?
Je vais ouvrir les micros, ce sera plus simple peut-être.
Attends, ce sera un brouhaha qu'on ne supportera pas. Le gaz pour les boissons, un par un. Le gaz pour les boissons est issu de chametz, assour ou moutarde, est-ce que ça veut dire le gaz des boissons est issu du chametz? Qui a dit ça? Monsieur Grunberg, c'est oui, issu de chametz. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est issu du chametz?
C'est-à-dire que pour faire des boissons gazeuses, on utilise de l'adjonction de gaz carbonique et ce gaz carbonique, il est généralement obtenu à l'issue de la fermentation de blé.
Ou qui vous a raconté ça? Qui vous a raconté ça?
Je suis chimiste et j'ai vu que dans les processus de fabrication et d'adjonction de gaz, pour la fabrication de certains gaz carboniques, c'est issu de fermentation. Quand vous faites fermenter du blé, ça produit du gaz.
Oui, mais le Coca-Cola, il est fait du chametz?
Non, pas du tout. Je parle par exemple des boissons comme... Par exemple, on dit que dans les listes de boissons gazeuses, les listes de boissons gazeuses qui sont autorisées, par exemple, on vous dit qu'il n'y a que le Perrier parce que l'adjonction de gaz est issue du gaz de la source. Alors que les autres boissons gazeuses, des fois dans les listes, par exemple à Rothenberg, ils n'autorisent pas les autres boissons gazeuses parce que j'ai entendu dire que c'était par rapport à l'adjonction de gaz qui était issue de la fermentation.
Vous êtes, attends, doucement, vous dites chimiste.
Oui.
Vous dites que dans les bouteilles de l'eau gazeuse, le gaz vient de fermentation du blé.
Oui, de fermentation de produits. Alors, ça peut être du blé, ça peut être d'autres produits.
Ça me semble tellement, je ne sais pas, moi je ne suis pas chimiste, je suis peut-être à côté de la plaque, mais ça me semble tellement loin.
Mais est-ce que si c'était le cas, ça serait un problème de, parce que ce n'est pas, de à la khila le gaz. Le gaz, ce n'est pas de la khila, non?
La question, elle est… Si, alors, moi, je pense que c'est une question théorique. Je ne sais pas. Ça me semble bizarre qu'on fabriquerait du gaz à partir du blé pour mettre dans les bouteilles. Vous vous rendez compte combien de blé on a besoin? Imaginez-vous combien de Coca-Cola on vend. Il y a du gaz dans les Coca-Cola. Il faut des milliards de tonnes de gaz. D'où il y a cette fabrique, cette boulangerie qui fait sortir le gaz carbonique pour mettre à vendre à Coca-Cola? Ça me semble un peu… Je sais pas. Mais disons, en théorie, si jamais quelqu'un il a fabriqué du pain… Hein, et il a pris le gaz carbonique et il l'a enfermé dans une bouteille de l'eau gazeuse. Est-ce que ce sera permis, Pessah ou pas? Voilà, j'entends la question. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous parlez qu'il a fait pendant Pessah ou avant Pessah? S'il a fait pendant Pessah, donc pendant Pessah, le blé, il fermente, il est à Sourbahana'a. Donc, le gaz qui vient, il est sur Bahana'a. Donc, si ce gaz, il va rentrer dans une bouteille d'eau et je vais prendre pendant Pessah et j'ai un kiff de ce gaz. Ce gaz, il fait sur la langue tata, comme ça des petits kiffris. Eh bien, il me dit que j'ai kiff de Hametz, bien sûr. Mais imaginons-nous qu'on a sorti le gaz avant Pessah. On l'a mis dans la bouteille avant Pessah. Le gaz lui-même qui sort du Hametz avant Pessah, est-ce que le gaz est un aliment? L'Ichora, non. Un gaz n'est pas un aliment. Nimtza, que c'est le Hametz avant Pessah. On a dit avant Pessah, il n'y a pas encore d'Issur Hana'a. L'Issur Hana'a ne vient que quand Pessah il arrive. Et si j'ai brûlé le Hametz avant Pessah, jusqu'à le rendre braise, il n'y a pas d'issur hametz qui tombe dessus. Et on pourrait profiter de cette braise. Vous vous rappelez ce qu'on a dit avant? Nimtza, que si je vais fabriquer du pain avant Pessah, il y a le gaz qui sort. Ce gaz n'est pas un aliment. Comme il n'est pas un aliment, quand il arrive Pessah, il n'y a pas d'issur sur lui. Ah, maintenant j'ai mis le gaz dans l'eau. L'eau, c'est un aliment. Et le gaz, il est dedans. Mais quand je l'ai sorti du blé, il était en état de gaz. Gaz, c'est pas un aliment, l'Ichora. Gaz, l'Ichora, c'est pas un aliment. Sauf s'il est annexé. S'il est, par exemple, dans un morceau de pain, on mange un pain Pessah, il y a des petits trous, et dans les trous, il y a de l'air. C'est mitzaref pour le shiur kezai, parce que les petits pots sont annexés au pain. Mais le gaz lui-même n'est pas un aliment. Et donc, le chora, s'il n'est pas un aliment, il n'y a pas d'issour. Donc, il ne peut pas avoir un issour chametz dessus. Donc, il ne devrait pas être interdit, le chora. Donc, peut-être c'est faux. Oh, je ne suis pas ici dans la halakha, je suis ici, me falpel, pour voir clair les choses. Dans le maasé, je ne sais pas, peut-être rien d'autre, peut-être il y a eu de chametz dedans. Peut-être du moment qu'on l'a mis dans l'eau, c'est devenu une partie d'un aliment. Si on a mis avant Pessah ce gaz carbonique dans de l'eau, il est devenu un produit dans l'eau, et l'eau, c'est un aliment. Donc, ce chametz, il est maintenant un aliment. Parce que là, peut-être c'est viassour. Peut-être c'est viassour. Mais est-ce que vraiment c'est comme ça que le gaz, je ne sais pas. Il faut savoir quelle est la vérité. Est-ce que... D'accord.
Rabbi Ariel.
Oui.
Vous me donnez le micro.
Oui. Ah, vous l'avez.
Alors, je vais vous dire, ils font des centaines de tonnes de gâteaux, desquels ils récupèrent des tonnes de gaz carbonique, dont ils ne savent que faire. Alors, quand il y a un fabricant de soda qui a besoin de gaz carbonique pour complémentariser ses sodas, ils le revendent à très bon marché aux fabricants de sodas. Parce qu'ils font des gâteaux, ils font fermenter, ils récupèrent le gaz carbonique dans les processus industriels de fabrication. Et ce n'est pas des petits quantités, c'est des centaines de mètres cubes. Quand ils font des gâteaux en grande série, pour les marques qui vendent des millions de paquets, hein, là, il y a récupération du gaz carbonique.
C'est peut-être, d'accord, mais c'est non, j'ai entendu. Il faut annoncer. C'est à... Quelqu'un il dit, le gaz n'a pas de mamachout. Oui, c'est juste, le gaz n'a pas de mamachout. Et alors, quand le gaz, il est seul, c'est sûr qu'il n'est pas un aliment. Il n'a pas de mamachout. Le gaz lui-même... C'est sûr qu'il n'a pas de dîme d'aliments. La question, elle est quand après je le remets dans l'eau. Quand je le remets dans l'eau, même d'abord chez Enoma Machout, peut-être il a un issour. Est-ce qu'il a un issour? Je dis une bêtise, mais simplement pour l'idée, pour comprendre un peu l'idée. Il y a un Gemara dans Mesechet Avodah Zarah que si quelqu'un il se prosterne à une vache de Avodah Zarah, elle est assur bahana'a. Si après elle a fait des excréments, est-ce que les excréments sont assur bahana'a? Hein? Il en est dit oui, pourquoi? Mais il se prosterne à la vache, pas aux excréments.
Il en a l'utilité pour pouvoir l'utiliser comme engrais.
Quoi?
Il en a l'utilité.
Non, il fait un bruit. Il y a un bruit à côté de toi. Il faut arrêter le bruit, oui?
Il a l'utilité.
Non, il y a un bruit chez toi. Dès que tu parles, il y a un truc. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui? Oui?
Serge?
Oui, Ilan, oui, dis.
Et parce qu'il l'utilise comme engrais.
Non, mais lui, il s'est prosterné pour la vache, pas pour. Il n'a pas besoin de l'engrais. Alors, est-ce que le père il est assourd? La Gemara Vodazara qui dit que le père il est assourd. Pourquoi? La Gemara nous dit parce que le père gonfle le ventre et c'est du kavod. Elle sert pour le kavod.
Il n'entendait pas.
Parce qu'un homme qui dit à son Dieu, regarde Dieu, je t'offre un taureau de une tonne, un gros ventre comme ça, tu dois être content. Alors la voix des Araïs dit, oui, c'est beau, 101 tonnes de viande tu me sers. Alors il dit, non, mon Dieu Bouddha, c'est pas une tonne de viande, il y en a ainsi 200 kilos de saleté. Alors, qu'est-ce que dit Bouddha? Ne raconte pas aux gens qu'il y a 200 kilos de saleté. Les gens sont mis de paille de son gros ventre. Ça me fait beaucoup du kavod. C'est pas grave que c'est de la saleté. Moi, je suis honoré d'un gros taureau comme ça. Donc, le Gemara nous dit, le perech fait partie du kavod, donc c'est aussi une hana'a. Bon, en tout cas, si on met le gaz carbonique, s'il est assourbana, je le mets dans l'eau, je peux dire maintenant c'est un aliment que je suis néhéné. Seulement la question, elle est avant de le mettre dans l'eau, maintenant en état de gaz. Parce que toujours quand un homme, il va faire évaporer de l'eau. Et après l'eau, il va redevenir de l'eau. Est-ce qu'il a le même din comme avant? Un homme, il va avoir de l'eau qui est assourbana. Il a fait avodazara devant l'eau. Maintenant, il va évaporer l'eau. N'existe plus. Alors, ça monte en haut sur le toit. Et après, ça retombe. Et j'ai de nouveau l'eau. Est-ce que les sourdes avodazara, il est encore là? Alors, il y a un Mishnah dans Mesechet Marchirin vis-à-vis de l'eau qui est marchir la Kabel Touma. Zeyat Hamirchatz marchir Zeyat Habayit Eino marchir. Si c'est pas un bain mais une maison normale et il y a de la transpiration sur les murs, ça n'a pas un din de Mahayim et c'est pas marchir. Et si c'est le bain et ça monte, on voit, ça descend, c'est lui marchir, c'est Zeyat HaMerchatz. Malgré que dans la Metsiout, c'est la même chose, mais vis-à-vis d'une de Marchirin, c'est un din de Mayim qu'on voit que ça, c'est la même chose. Malgré qu'à un moment, c'était des gouttelettes. Mais les gouttelettes sont des gouttelettes. C'est de l'eau, c'est mon petit goutte. Mais gaz... Du gaz. Un homme, il va cuire basar bachalaf. Après, c'est assourbana le lait. Maintenant, ce lait, il va le couper en petits morceaux. Tout petit, c'est des minuscules. Ça n'existe plus. Et après, il va récupérer ces tout minusculim. Il va redevenir faire du lait. Est-ce que c'est encore du basar bachalaf? Le lait, il est assourd. Où je dis panim chadashot baoulakan, c'est une nouvelle chose. Il n'y a plus d'issour basar bachalaf. Même si nous allons dire c'est plus basar bachalaf, même si on va dire c'est oui basar bachalaf, c'est oui encore du lait, mais gaz, quand c'est un état de gaz, les choras, ce n'est pas un aliment. L'homme a-t-il nous un aliment gaz dans la Torah, sauf s'il est annexé, mais seul il n'est pas. Peut-être si c'est sorti pour faire entrer là-bas, peut-être ça reste aussi. C'est possible. D'accord. On a fait combien? On a fait 1h30. D'accord. D'accord. Alors on va. Si, qui c'est monsieur Gruber? Comment vous appelez? Grimberg? Vous êtes là? Où vous êtes? Où est votre truc? Vous êtes encore là?
Oui, je suis là, oui.
Alors, si vous êtes chimiste, est-ce que vous pouvez analyser vraiment la chose si on utilise dans les...
Oui, j'ai regardé, j'ai vérifié sur des sites, par exemple chez les gens qui font de la bière, quand ils font fermenter le houblon, enfin le malt pour faire de la bière, etc., ils récupèrent leur CO2 pour le réinjecter des fois dans de la bière ou dans d'autres boissons pour optimiser leur production. Donc ça, c'est connu dans les fabrications alimentaires. Ils arrivent à récupérer du CO2 qu'ils vendent ensuite pour les industries agroalimentaires. Moi, c'est ce que j'avais entendu. C'est pour ça que dans la liste de Rav Rotenberg, par exemple, pour les boissons gazeuses, ils n'autorisent que le Perrier. Pourquoi le Perrier? Parce que le Perrier, le gaz carbonique qui est utilisé dans le Perrier, ce n'est pas du gaz carbonique issu des fermentations, mais c'est un gaz carbonique qui est issu de la source Perrier, qui est une source qui est riche en gaz carbonique. Et donc, il y a marqué dans la bouteille de Perrier, il y a marqué adjonction du gaz issu de la source. Voilà.
Est-ce qu'on peut fabriquer aussi du gaz carbonique sans que c'est bien d'une source et sans d'un aliment, mais fabriquer autrement, est-ce qu'on peut?
Bah, peut-être, oui. Il doit y avoir d'autres moyens de fabriquer. C'est-à-dire que c'est de la fermentation, c'est-à-dire qu'il y a de la fermentation, mais après, ce n'est pas forcément de la fermentation de chametz. Par exemple, ça peut être de la fermentation de vin. Les gens qui font fermenter du raisin, on peut récupérer aussi de la fermentation du raisin. Ce n'est pas forcément du chametz à ce moment-là.
Et ce gaz carbonique, il aura un goût de raisin de vin ou pas ?
Non, il n'aura pas le goût, pas du tout. Non, il n'aura pas le goût de raisin, non.
Alors, on pourrait poser la question, si quelqu'un il a du Yahin Esser, ils ont du Yahin Esser qui est sur Bahana'a et qui va récupérer le gaz carbonique et il va mettre ce gaz carbonique dans une eau gazeuse. Est-ce que c'est eau gazeuse, ce sera assourd de boire parce que ça s'appelle profiter du Yahin Esser? Mais ici, c'est déjà assourd Bahana'a. Si c'était déjà assourd Bahana'a, c'est beaucoup plus pur. Ici, c'est avant Pessah. Ici, c'est avant Pessah, c'est pas pendant Pessah, c'est avant Pessah. Avant Pessah, il y a deux chélotes. Hein, si c'est avant Pessah et on a enlevé du chametz, et ce n'est pas un état d'aliment, est-ce qu'il y a chal sur lui un issur chametz après? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que le gaz carbonique, il a un goût? Est-ce que le gaz carbonique, il a un goût? En tout cas, sur la langue. Ça fait pic, c'est bon, les gens, ils aiment ça, non? À partir de végétation, c'est possible. D'accord, je ne sais pas. Alors, on va se rencontrer quand ce soir, à quelle heure? À 9h. À ce soir, à 9h. Coltouf.